Merci. Je voudrais dire en préambule que je suis très honorée et surtout très reconnaissante au Seigneur parce que je dis sans emphase en toute simplicité, mais ça fait quand même 34 ans. Si vous êtes là, si je suis devant vous, c'est grâce à Monsieur Blocher. C'est parce que quand j'avais 17 ans, que j'étais une jeune chrétienne qui séparait complètement la littérature de la vie chrétienne, j'ai été dans une conférence à Reims, dans un amphi où il n'y avait quasiment personne. Un soir, il faisait une nuit, c'était l'hiver, et Monsieur Blocher a donné une conférence top niveau, comme si c'était l'élite de la nation, alors qu'il y avait 4 petits péquenots au premier rang. Et j'ai été fascinée par cet homme. Et je me dis, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi rigoureux et en même temps d'aussi humble devant Dieu. Et quelque part, je me suis dit, je serai comme lui un jour. C'est vrai, hein? Je vous dis simplement parce que c'est la vérité et que j'ai toujours, chaque fois que je prends la parole, j'ai toujours cette double ambition que j'ai retenue de lui, extrême exigence intellectuelle, jamais de concession, et donc ambition intellectuelle et extrême humilité devant la parole de Dieu et devant les autres. Et si je peux résumer le travail du chercheur que j'essaye d'être aujourd'hui, c'est ça. Et donc, merci. Merci au Seigneur qui m'a donné sur vous. Et peut-être que vous n'avez pas eu conscience de faire ça, mais vous avez fait quand même cette conférence de première qualité alors que ça ne valait pas la peine objectivement. Vous auriez pu vous dire, c'est de la perle au pourceau. Eh bien, il y avait un petit pourceau qui a pris la perle et qui l'a digérée. Donc voilà, tout le reste va être une déclinaison de cet axe, de cette conduite que être chercheur, c'est d'abord chercher, c'est d'abord être hyper exigeant avec soi-même, puis avec les autres dont on a la responsabilité après. Et en tant que chrétien, c'est toujours savoir que Dieu met des talents en nous et qu'il exige du rendement. S'il met du talent, c'est pour que nous les fassions fructifier. Donc voilà les deux pôles et la tension dans laquelle je vis tout le temps. Après, tout le reste va être un peu décousu. Expliquer ce que je fais, je suis enseignante en maître de conférence en littérature générale et comparée. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça fait très bien, mais ce n'est pas le contenu vraiment. Donc je suis à l'Université de Lettres de Metz et surtout je suis chercheure en littérature francophone. C'est-à-dire que donc je travaille sur des littératures d'abord de Madagascar, puis de l'océan Indien, puis de l'Afrique. Et je réfléchis à la posture des écrivains qui sont en francophonie, qui sont dans des pays qui ont été coloniaux, et dans des pays où il y a des complications. Et plus particulièrement, je travaille sur la façon dont ils ont réintégré l'histoire et dont la littérature peut réécrire l'histoire avec le prisme de l'idéologie, du temps passé, du rapport à l'ancienne métropole. Ensuite, j'ai 4 volets, hein, donc je ne vais pas étaler ma vie, mais je suis là pour ça. Donc je fais beaucoup de critiques littéraires. Alors la critique littéraire, c'est autre chose. C'est de décortiquer les textes écrits par les autres. Et par un certain nombre de techniques, d'approches, c'est d'arriver dans le cœur des autres et ensuite d'écrire sur les autres. Et là, ça pose tout un tas de questions et de défis chrétiens aussi pour arriver à rester suffisamment transparent et pour voyager dans l'imaginaire et dans la logique des autres et pour en rendre compte, même si leur logique n'est pas la vôtre. Donc ce matin, on a parlé d'objectivité, c'est à discuter ça. Troisième volet, j'ai une activité éditoriale dans la mesure où je travaille à l'émergence de nouveaux écrivains des zones francophones. Donc je vais en Afrique, en Algérie, dans l'océan Indien, et je rencontre des gens qui écrivent, qui ont des choses à dire, qui veulent les dire, et donc je les accompagne dans leur procédé d'écriture jusqu'à les publier. Donc là aussi, il y a beaucoup de relations humaines, d'exigences intellectuelles, d'accompagnement, d'empathie, de compréhension sans forcément adhésion. Là, je reviendrai un peu sur ça. Et la dernière partie, c'est l'enseignement avec les étudiants. Mais ça, vous connaissez tous. Je ne dis pas trop de choses là-dessus, sauf on va revenir sur l'aspect témoignage. Donc voilà un peu mon travail. Je voudrais juste avoir donc deux volets. À mon sens et dans mon vécu, comment est-ce que la relation vivante avec Jésus-Christ à titre personnel implique une certaine façon de faire ce que j'ai à faire. Il ne s'agit absolument pas d'avoir une démarche apologétique justement dans toutes ces fonctions, mais je pense et je crois et je le vis que d'avoir Jésus-Christ et d'avoir le Saint-Esprit justement qui transforme l'intelligence donne des orientations à ces quatre volets. Donc, d'une manière générale, l'exigence de mon travail et toute exigence universitaire, c'est de mettre à distance les sujets par rapport à soi-même et donc de ne pas regarder les choses au filtre de ce que nous sommes, même si ce que nous sommes, c'est la foi chrétienne. Il me semble que ce n'est pas du tout ce qu'on attend de nous, et en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, puisque c'est la rigueur intellectuelle, c'est plutôt d'observer, de démonter, de comprendre, de mettre à jour les mécanismes qui sont dans les théories et dans les constructions des autres. Y adhérer ou pas y adhérer, c'est dans un deuxième temps. Mais de mettre à jour, de mettre à jour tout, c'est-à-dire d'aller au bout de cette mise à jour, y compris les contradictions vers lesquelles elles tendent, à cause de leurs présupposés. De mettre à jour les présupposés, de mettre à jour les non-dits, et d'aller jusqu'aux limites de la cohérence de leur système. Ce n'est pas du tout dans un objectif de les combattre, mais dans un objectif d'en rendre compte de manière globale. Je suis trop près ou trop loin ? Voilà, et ça demande non pas une schizophrénie de dire je mets à part mon identité chrétienne, mais au contraire, je crois qu'on est dans l'amour de la vérité, c'est-à-dire le temps que j'étudie quelqu'un, que ce soit un écrivain, un critique littéraire, un théoricien, je suis tout à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui compte. C'est lui qui compte, c'est lui que je regarde, c'est lui que j'écoute, c'est lui que je dépèce, c'est lui que je démonte. Avec l'amour que je lui dois au nom de la vérité. Même si après, je vais mettre à jour tout ce qui ne va pas dans sa théorie. Et tout ce qui est illogique et tout ce qui ne tient pas. Parce que dans le domaine littéraire, on est toujours, et ça c'est un grand privilège, une des grandes questions de la langue, de la linguistique et de la littérature, on arrive, quels que soient les chemins, on arrive à la question du sens. Et donc, on arrive in fine, est-ce qu'il y a un sens ? Et s'il n'y en a pas, la plupart du temps, on arrive à démontrer que pour eux, il n'y a pas de sens. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent jusque-là ? Comment est-ce que l'aboutissement, comment est-ce que leur système fait qu'on arrive à un non-sens ? Donc, ça exige une disponibilité qui, non pas qui enlève le filtre de la foi, bien au contraire. Et il me semble que d'avoir moi-même choisi me permet de comprendre. À la fin, quand j'arrive à ce démontage, je mesure, et c'est seulement à la fin, je mesure l'écart qu'il y a entre quelqu'un, cet autre, qui n'a pas fait les mêmes choix que moi et moi-même. Alors ça débouche quand il y a des relations directes, je fais beaucoup d'entretiens avec des écrivains, et j'en ai fait encore un samedi dernier, donc c'est, on démonte, et au bout de 2 heures, j'arrive à lui faire dire ses limites. Et à ce moment-là, quand il a vu ma démarche, la plupart du temps, ça débouche sur des questions réciproques, ou sur un espace de liberté où j'ai moi-même la liberté de prendre la parole en mon nom propre. Mais mon travail, c'est un travail d'accoucheur, un travail de mécanicien ou de chirurgien. Je dis souvent à mes étudiants, nous, nous sommes là pour ouvrir le ventre aux écrivains par le biais de la dissection de leur texte. Voilà pour la démarche générale. Maintenant, attendez, je voulais vous lire un verset que je lirai tout à l'heure, qui est un peu les références ouvertes à la Bible. Donc, dans d'autres domaines de recherche, j'ai la chance et j'ai le privilège, et évidemment, je n'ai pas choisi ça, ils y voient la main extraordinaire de Dieu qui nous conduit par des chemins très sinueux. J'ai été recrutée dans une université où un des critères de recrutement, c'était d'avoir une sensibilité pour la littérature et la spiritualité. Donc, c'est pas partout. J'ai grandi partout quand j'étais étudiante, c'était plutôt l'inverse qui était demandé. Donc, je suis dans des réseaux de chercheurs où il y a beaucoup de travail sur la Bible, où on fait des colloques sur l'intertextualité biblique. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. J'ai moi-même publié, et ça faisait partie de mon CV quand j'ai été recrutée, d'analyse de la Bible dans la littérature malgache. Je suis dans un cercle de littérature africaine. On a fait un congrès sur le thème de la littérature et de la spiritualité. Spiritualité ne veut pas dire christianisme. Hein. Mais vous voyez, comme on arrive à réintégrer, et dans ces débats-là, ça devient naturel d'avoir cette dimension. Et on laisse la porte ouverte à tout débat, et je vais revenir à cette façon d'être regardée. Donc, il y a ça, il y a la recherche, il y a les réseaux, et j'ai amené quelques tracts, parce qu'il y a plusieurs universités en France qui organisent des séminaires de recherche sur l'intertextualité biblique, sur les personnages. Par exemple, à l'Université de Lorient, fac de lettres, depuis 2 ans, ils ont un séminaire de doctorants sur chute et rédemption. Vous voyez ? Cadeau sur un plateau d'argent. Chute et rédemption, appel au peuple, on demande des communicants. Donc pendant toute l'année, il y a des conférences là-dessus. À Metz, c'est la même chose, il y a un réseau de spiritualité qui vient de commencer, donc c'est tout le temps comme ça. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on va s'y précipiter et puis prendre ces endroits-là pour prêcher l'Évangile. Pas du tout. C'est là où on va montrer qu'on peut proposer une pensée affinée, aussi rigoureuse, aussi solide que les autres, mais avec des présupposés, avec des soubassements qui sont des soubassements confessants. Dans les enseignements, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions, puisque en littérature, il y a tout le temps d'intertextualité biblique, il y a tout le temps des références, des allusions, et presque jamais les étudiants ne comprennent. Donc, on est obligé de tout reprendre. Et, par exemple, en ce moment, j'ai un cours sur Giono, avec toute une thématique de la Genèse. Bon, c'est évident que c'est calqué sur Genèse 1. Donc, je relis Genèse 1 et je fais une étude biblique, terme à terme, le terme qui est dans la Genèse et comment est-ce que Giono le reprend pour l'inverser, etc., etc. Donc, et c'est une étude biblique intégrée et en plus, je suis payée pour ça. Alors, ouais, c'est vraiment un cadeau. Voilà, donc ça, c'est pour l'aspect recherche. Encore dans la recherche, une conséquence, il y a, et ça tous ceux qui sont ici le savent, une des priorités, pardon, en plus d'enseigner, nous devons publier. Et publier, c'est quoi ? C'est avoir son nom partout. Hein. Et là, je constate dans les universitaires, c'est un milieu, et cette attitude rend très orgueilleux. C'est à mon nom, c'est sous mon nom, volume publié sous la direction de moi, et on aime avoir son nom, on doit l'avoir et on aime avoir son nom. Et chaque fois, évidemment, on est obligé. Il faut dire que mon arrière-plan familial, moi j'avais un père qui m'a toujours dit comme postulat, le nom des fous est écrit partout. Donc il ne faut jamais mettre son nom nulle part. le slogan, c'était « Pas de trace de son passage ». Donc, je suis strictement dans l'inverse de mon éducation. Et c'est quelque chose de se battre pour mettre son nom, parce que sinon, c'est le nom des autres. Et d'avoir ça comme objectif, c'était vraiment pas du tout mon objectif. Et pourtant, il faut. Et j'ai tout le temps ce verset en tête où Jésus dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Nous devons avoir nos noms inscrits sur des actes de colloque, dans des revues prestigieuses. On doit faire des bilans. Qu'est-ce qui est à ton nom? Qu'est-ce qui n'est pas à ton nom? C'est à ton nom, mais attends, il y a quelqu'un d'autre à côté de toi. Je pense que d'avoir ce verset derrière, moi, mon nom, il est inscrit d'abord et avant tout dans les cieux. Donc, s'il est sur leur petite revue de rien du tout, bon, je veux bien mettre mon nom. Mais vous voyez, la hiérarchie des publications, parce qu'il y a une hiérarchie des revues aussi, la hiérarchie des publications est strictement inversée par le fait que vous êtes d'abord dans les cieux. Et après, s'il y a beaucoup de livres à votre nom, ça devient complètement secondaire. Mais dans des cas concrets, par exemple, l'année dernière, j'ai fait un truc, bon, c'est moi qui ai donné l'idée, bon, c'était moi l'auteur, entre guillemets, puis c'est devenu un grand spectacle dans une salle à Tana. Et les gens qui ont fait ce spectacle ont fait des affiches, un battage, et puis ils ont oublié de mettre mon nom. C'était les danseurs, enfin, c'est tous les autres qui ont été cités. Moi, je m'en fichais complètement, parce que j'étais contente que mon idée ait été reprise et ait eu du fruit. Mais les gens ont été extrêmement choqués que je ne sois pas choquée, que je ne sois pas vexée, que ça ne soit pas un drame pour moi que mon nom n'ait pas été mis. Tellement nous sommes dans cette logique que nous sommes propriétaires, nous avons des labels et nous devons absolument sortir des choses à notre nom et être fiers de ça. Donc voilà, l'histoire de publier à son nom, ça donne ça. Donc ça, c'est un peu les actions et comment est-ce que le travail est infléchi par la foi. Maintenant, il y a l'aspect proprement témoignage. C'est un peu difficile à dire en restant humble, parce que j'ai pas envie de vous dire que les gens m'ont vu ou ceci. C'est pas facile de l'expliquer, et en même temps c'est tellement ma vie quotidienne que j'ai envie de le partager. Je voulais lire simplement un seul verset qui est dans la deuxième épître de Jean, 2 Jean verset 3. Que le Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous accorde la grâce, le pardon et la paix pour que nous vivions dans la vérité et l'amour. Et peut-être qu'on peut renverser la phrase et dire « Nous vivons dans la vérité et dans l'amour parce que nous avons reçu la grâce, le pardon et la paix. » Donc ce que les autres voient de nous, c'est ni la grâce, ni le pardon, ni la paix, mais c'est si nous vivons dans la vérité et dans l'amour. Et Dieu voulant, s'ils sont interpellés, ils remonteront par le biais de notre témoignage, de notre parole, à la grâce, au pardon et à la paix. Donc, dans ce contexte de chercheurs non, dans un réseau non confessant, il me semble que c'est de vivre cette vérité et cet amour, mais c'est de le vivre en l'ayant intégré, pas en disant tous les matins, il faut que je vive dans la vérité et dans l'amour. Parce que si on... Et c'est pour ça que j'ai posé la question sur l'esprit qui nous transforme. Si l'esprit purifie notre travail intellectuel et notre relationnel avec les écrivains, avec les institutions universitaires, avec les étudiants, si nous sommes purifiés et pacifiés, c'est-à-dire que nous ne recherchons pas à construire notre vie en mettant notre nom sur des livres, beaucoup de gens sont comme ça, eh bien, il y aura une certaine paix qui ressortira, parce que nous ne cherchons pas de force à construire notre identité par ce travail, par une reconnaissance qui est en fait une construction de l'extérieur. Et c'est comme ça que je suis interpellée par ceux qui sont autour de moi. Et souvent, ils me disent, mais comment ça se fait que tu ne sois pas accro comme ça à vouloir se hisser ou à vouloir mettre son nom ou à être agité intérieurement ou à être énervé parce que bon, il y a beaucoup de gens névrosés autour de nous. Et c'est bon, j'ai pas envie de que ça soit que des compliments sur moi, mais c'est comme ça que les gens nous regardent, hein. Les gens nous regardent. Et quand on est mon directeur de département, il parle de beaucoup de gens. Une fois, il m'a dit, oh, je préfère être avec toi, au moins, t'es pas névrosé. Mais c'est le travail universitaire est comme ça. C'est ça rend tout à fait. On se construit, quoi. On met toute son énergie. Et si on n'a rien d'autre derrière, eh bien, on est concentré et on fait sentir ça. Et on a de l'amertume parce que c'est pas vraiment un endroit où on a toujours de la reconnaissance. Donc, si on a cette reconnaissance par Dieu, si on a notre prix affiché en Jésus-Christ, notre prix est tellement haut que le prix que nous donne l'université, ma foi, c'est secondaire. Du coup, on est très, très sûr de soi. On est très sécurisé. Et les autres le sentent. Ça, c'est la première chose, cette assurance qui vient du salut, de la grâce donnée et du prix donné par le roi, pas par le président de l'université. L'autre chose, c'est la paix et la sérénité qui vient justement du sens qu'a notre vie si nous sommes aimés par Dieu en Jésus-Christ. Et ça, il n'y a pas besoin de l'écrire là, parce que quand les gens n'ont pas ça, et c'est 98% des écrivains, ils écrivent parce qu'ils sont torturés, questionnés, qu'ils n'arrivent pas au bout de leurs questions. Moi qui suis au plus près d'eux, puisque quand je travaille leurs textes, ils me le disent tout le temps, je les connais mieux qu'eux à la fin. Je sais plus ce qu'il y a en eux. Par effet de miroir, ils voient ce qu'il y a en moi. Et c'est eux qui disent, mais je n'ai pas ta sérénité, je n'ai pas ta paix. Et puis ils se rattrapent aussitôt en disant, heureusement, sinon j'arrêterai d'écrire. Et c'est là que commence la discussion intéressante. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'afficher. Parce que quand on est au plus près des autres, dans une espèce d'écoute, d'empathie et de proximité intellectuelle et émotionnelle, après ça, on n'a plus rien à démontrer par les mots, puisque on vit dans la vérité, c'est ça. Pour moi, vivre dans la vérité, c'est d'abord appliquer la vérité sur eux, ne pas projeter ma grille d'analyse, mais c'est aussi me laisser lire. Les laisser lire en moi, s'ils y trouvent quelque chose qui les interpelle, eh bien, je répondrai. Et enfin, bon, la démarche plus banale d'être avec les collègues et de parler de soi, c'est d'abord les choses basiques des chrétiens, que vous allez trouver ordinaires, mais qui sont extraordinaires dans les milieux où je vis. Par exemple, moi, j'ai le même mari depuis que je suis jeune. Hein? Eh bien, je suis la seule de mon milieu comme ça. C'est extraordinaire. J'ai 4 enfants. Je ne connais aucun collègue universitaire qui a 4 enfants. Et quand je dis ça quand je le dis ou quand je le dis pas, ouais, eh bien, une fois, j'ai dit au cafétéria, vous avez combien d'enfants? Aussitôt, la personne a dit, oh, ah, ça, je reconnais, vous êtes croyante. Vous voyez, c'est la vie qu'on mène, c'est laisser vivre dans la vérité, c'est amener les gens à leur propre démonstration et se laisser interpeller par ça. Bon, parfois, ça va beaucoup plus loin, parce qu'il y a des gens qui ont le discernement. J'enseigne à Metz, mais j'enseigne en partie en Afrique aussi. Et je dirais qu'en Afrique, c'est beaucoup plus facile. Parce que, justement, le tabou de la foi chrétienne n'est pas là. Et sans avoir jamais rien dit, j'ai été plusieurs fois interpellée par des étudiants. Par des étudiants qui étaient aussi des écrivains. Donc, il y a toute cette proximité intellectuelle, cette intimité intellectuelle. Et j'ai pris en pleine figure, comme un cadeau, tout d'un coup, l'étudiant que j'accompagnais, tout d'un coup, il me regarde dans les yeux, puis il me dit, mais madame, est-ce que vous priez? Et ça vient naturellement parce qu'il y a eu un cheminement, parce que je me suis intéressée à lui dans la vérité, et parce qu'il a vu en moi. Un autre travail que j'ai fait, qui n'était absolument pas chrétien, j'ai fait tout un travail au Congo d'accompagnement des écrivains jusqu'à une publication. Enfin, j'y vais encore, c'est tout le temps même à Lubumbashi ou Katanga. Et puis, il y a un prof d'université, de l'université là-bas, qui m'a dit, mais il y a beaucoup de profs qui viennent ici, des profs français, mais ils déballent leurs trucs, ils s'en vont, je ne sais pas pourquoi avec vous, pourquoi est-ce que vous aimez, pourquoi est-ce que vous revenez, pourquoi est-ce que vous arrivez à faire ça. Et après plusieurs séances, il est revenu, puis il m'a dit, j'ai compris pourquoi ça marche avec vous, parce que vous avez l'amour. Alors, je n'avais rien dit, hein. Et c'est laisser lire les gens à l'intérieur de vous, et je n'ai pas fait de déclaration de bisous, hein. Ce n'est pas du tout l'amour comme ça. C'est l'amour exigeant. Hein. Et parce qu'en même temps, j'ai quand même les étudiants me disent, avec vous, madame, je ne fais pas de cadeaux pour autant, parce que justement, je considère que ce n'est pas de l'amour d'être gentil et de faire passer la médiocrité. Mais c'est un amour tonique, un amour qui fait avancer et un amour qui regarde au fond et qui met le doigt sur toutes les choses. Voilà, j'arrête là parce que là, je ne sais, c'était un peu décousu, mais peut-être qu'il y aura des questions après. Est-ce que ça remplit la mission? C'est ça que je devais dire ou...